Alléluia. Merci Seigneur. Nous ouvrirons la parole de notre Dieu, la bonne parole de notre Seigneur, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40. Et nous lirons au verset 27. Ésaïe, chapitre 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Voici un excellent passage qui s'adresse aux membres du peuple de Dieu qui, pour une raison ou des raisons, peuvent passer par des moments de découragement, d'abattement, et nous pouvons tous être amenés à connaître cela un jour ou l'autre. Et nous voyons qu'avant notre texte, depuis le verset 21 jusqu'au verset 26, que je ne lirai pas là, mais nous avons une description de la grandeur de Dieu, de son œuvre, de ses perfections, et après notre texte, donc au chapitre 41, il y a un changement de sujet, et entre les deux, c'est notre texte, donc il y a bien un message particulier qu'il nous faut recevoir avec un cœur bien disposé et examiné en détail avec le plus grand soin. Nous pourrons voir trois grandes choses dans la suite de notre prédication. Déjà, nous parlerons de ceux qui sont découragés et abattus, comme ils sont décrits là. Ensuite, nous parlerons de la façon comment Dieu les exhorte. Et puis en troisième, nous parlerons de l'action particulière de Dieu pour les fortifier. Donc en premier, il est question là depuis le 27, verset 27 de ceux qui sont découragés, qui sont abattus. Et voyez l'appellation que le Seigneur leur donne. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Il les appelle à la fois Jacob et Israël. Et Jacob, c'est le rappel de leur ancienne nature trompeuse, parce que Jacob, avant de rencontrer Dieu, c'était un trompeur, c'était un supplanteur, c'était un douteur. C'est quelqu'un qui cherchait tout le temps des trucs et des systèmes pour arriver à ses fins. Et la plupart du temps, c'était des choses qui n'étaient pas bien claires. Voilà. Ça, c'est l'image de notre ancienne nature, parce que nous, on est tous comme ça, plus ou moins, mais tous comme ça, dans notre ancienne nature. Et Israël, c'est la nouvelle nature, c'est le nouveau nom qui a été donné à Jacob lorsqu'il a eu lutté spirituellement avec Dieu et qu'il a été vainqueur. Donc, et c'est ainsi qu'il a été fait prince du royaume de Dieu. Et ça aussi, lorsque nous sommes nés de nouveau, eh bien, il y a cette nouvelle nature pour laquelle sont toutes les promesses et par laquelle, eh bien, sont remportées des victoires en Jésus-Christ. Et tant que nous sommes ici-bas, ben nous avons une lutte entre ces deux natures. Et c'est ce qui fait que si nous ne veillons pas, eh bien, nous pouvons effectivement nous laisser prendre par le doute et par le découragement, surtout dans certaines difficultés. Et il nous faut effectivement veiller et prier afin que l'esprit bien disposé puisse manifester la victoire. Amen. Deuxième chose qu'on voit dans ce verset 27, leur problème, c'est qu'ils ont parlé trop vite. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Deux fois, ils ont dit. Ils ont parlé trop vite. Vous savez, penser quelque chose de négatif, ça nous arrive à tous, mais on peut le combattre en soi. Et c'est très bien comme ça. Mais si ça franchit la barrière de nos lèvres, alors là, vous avez une étape importante qui a été passée. C'est-à-dire que là, vous avez confessé quelque chose. Nous sommes appelés à confesser la victoire, nous ne sommes pas appelés à confesser la défaite. Si nous confessons la défaite, si nous confessons ce qui est négatif, si nous confessons l'échec, si nous avons des paroles comme ça, des paroles de condamnation, de situation ou autre, eh bien, on aura beaucoup plus de mal à surmonter après. Ça, c'est la réalité, que si nous n'avions pas fait. Lorsque vous regardez Josué et Caleb, ils ont confessé la victoire. Et c'est à cause de ça qu'ils ont obtenu la victoire. Parler trop vite, c'est une aggravation du découragement. Une troisième chose qu'on voit aussi, c'est qu'ils ont proclamé que Dieu les oublie. Regardez au verset 27, ils ont dit « Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Vous savez, quand quelqu'un est découragé, il peut trouver dans les meilleures choses, dans les plus choses les plus positives, des raisons de se plonger encore plus dans son propre bourbier. Et là, nous en avons une preuve, parce que c'est une déclaration qui est fausse, qu'ils font, et qui est tirée de la grandeur de Dieu. Il a, je vous l'ai dit, il en est parlé juste avant, du verset 21 au verset 26, que nous n'avons pas lu. Donc, eux, ce qu'ils proclament, c'est que Dieu est tellement grand, justement, qu'il ne peut pas s'occuper d'eux. Tellement grand, qu'il les oublie. Tellement grand, voilà. Vous voyez, alors on proclame une parole de foi, et eux, ils en tirent encore une occasion de découragement. Et ça, c'est quelque chose qui existe. Hein. Et vous savez, il faut considérer cela, il faut considérer nos cœurs, et considérer nos âmes, et considérer nos vies de ce point de vue-là. Il y a quelques années de cela, on a découvert, ça s'est révélé au travers d'un article de journal aux États-Unis, et le titre, c'était « Prière non exaucée ». Prière au pluriel, non exaucée, lettre à Dieu jetée dans l'océan. De quoi s'agit-il? Eh bien, ces lettres, au nombre de 300, avaient toutes été adressées à un pasteur du New Jersey, et elles avaient été jetées dans l'océan, donc dans un sac en plastique, et la plupart n'étaient pas ouvertes. Alors, le pasteur était mort depuis longtemps. Alors, comment ces lettres se sont retrouvées à flotter sur les vagues de la côte du New Jersey? Ça, c'est un mystère. Et lettres étaient adressées au pasteur parce qu'il avait promis de prier. Et certaines de ces lettres contenaient des requêtes qui étaient légères, qui étaient frivoles, je dirais. Mais d'autres avaient été écrites par des conjoints, des veuves, des enfants angoissés, qui répandaient leur cœur devant Dieu, qui demandaient de l'aide pour des parents aux prises avec la drogue, avec l'alcool, ou un conjoint fidèle, une femme qui demandait un mari et un père qui aimerait son enfant. Et le journaliste a conclu que tout était des prières non exaucées. Ça, c'est ce que le journaliste a conclu. Hein. Mais nous, eh bien, nous savons que si les auteurs de ces lettres ont crié à Dieu, il les a tous entendus. Hein. Il n'y a pas une seule de ces prières sincères qui n'ait atteint son oreille. David, lorsqu'il se trouvait dans une situation de crise, encore d'une crise personnelle profonde, a dit « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi ». Et mes soupirs ne te sont point cachés. C'est dans le psaume 38 au verset 10. Hein. Et David comprenait que nous devons confier tous nos soucis au Seigneur plutôt que de les répandre autour de nous. Hein. Donc, même si personne d'autre ne prie pour nous. Et il a donc pu conclure avec assurance dans le psaume 86 au verset 7. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Alléluia. Et ça, c'est précieux, c'est important et c'est fondamental pour nous soutenir. Vous savez, les empereurs romains ne sont pas connus en général pour leur sagesse. Mais il y a quelques exceptions. Marc Aurèle, par exemple, était un grand penseur. Il a été empereur de Rome de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il était doué d'un esprit brillant. C'était un des grands intellectuels de la civilisation de l'époque. Et bien qu'il ne se soit jamais converti à la nouvelle foi qui porterait le nom de christianisme, il a fait quand même preuve d'une perspicacité tout à fait remarquable et sa sagesse reflète la loi de Dieu qui est écrite dans le cœur de quelqu'un même qui ne connaît pas Dieu, même de quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu. Suivant, je ne vais pas développer, mais c'est dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Romains que ça nous est expliqué. Et voilà ce qu'il disait par exemple. Je vais donner trois citations de Marc Aurèle. La première, « Votre bonheur dépend de la qualité de vos pensées ». Votre bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Deuxième, vous pouvez maîtriser vos pensées au lieu que ce soit les événements. Vous pouvez maîtriser vos pensées au lieu que ce soit vos événements. Et la troisième, notre vie est ce qu'en font nos pensées. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. Hein. Et ces propos ressemblent tout à fait à ce qui est écrit, par exemple, dans Proverbes chapitre 23, verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. » Voyez-vous ? Combien nous devons prendre garde à ce que nos pensées soient dans la bonne direction, que nos pensées manifestent la confiance au Seigneur. Parce que la réalité, ce n'est pas cette confession fausse, la réalité, c'est ce que vous voyez dans Ésaïe 49, par exemple, au verset 14, où nous lisons, si on disait, L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Alléluia, voilà. Quatrième chose qu'on peut voir à propos de ces gens qui se découragent, c'est qu'ils oublient ce qu'ils savent. Ils oublient ce qu'ils ont appris. Lorsque vous lisez au verset 28, il est marqué au début, « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ?» Ils disent que Dieu ne s'occupe pas de leur vie, que ce n'est pas son problème, qu'il n'est même pas au courant. Ils disent que Dieu ne les défend pas, qu'ils sont frappés par l'injustice. C'est vrai que sur cette terre, on peut à divers moments être frappé facilement. Ils pensent que Dieu ne sera pas juge et que leur cause ne sera pas défendue. Et que de folles craintes ! Que de folles craintes ! Et combien très souvent ces craintes s'évanouiraient après un examen sérieux et concret de la situation et des causes. En fait, que dit la parole de Dieu ? C'est ça qu'il faut qu'on se rappelle. Et que dit notre expérience du passé, bien souvent ? Bien souvent, n'oublions pas les expériences du passé. Et que disent les expériences d'autres croyants, les témoignages de nos frères et sœurs autour de nous ? Voyez-vous combien tout ceci doit nous aider donc à remettre les choses dans une juste perspective. Et puis une autre chose qu'on voit à leur sujet, qu'il est décrit encore, ils sont décrits comme fatigués. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et c'est vrai que la fatigue nous met aussi facilement dans une situation de découragement. Quand on est fatigué, parfois un repos réparateur, c'est le meilleur, en tout cas le premier remède. Là, on peut être fatigué pour diverses raisons. Ça peut être des efforts violents, répétés, des efforts longs, soutenus aussi, ou des déceptions malgré les efforts dépensés. Souvenez-vous du prophète Élie. Il avait accompli des choses incroyables. Lorsqu'il a eu prié pour que la pluie revienne après 3 ans et demi, il a prié avec ferveur, avec intensité pour cela. Et quand la pluie est arrivée, il a couru devant les chars du roi, donc sur une longue distance. Et puis après cela, dans la foulée encore, si je peux dire, il a fallu abattre tous les prophètes de Baal. Donc ça a été des efforts dans lesquels Dieu l'a soutenu, mais qui étaient quand même surhumains. Et puis voilà qu'il réalise que d'une part Jézabel en veut à sa vie, et que d'autre part, malgré tous ses efforts, le peuple de Dieu ne prend pas position pour le Dieu, justement, et puis le roi non plus. Alors le voilà qui tombe dans le découragement, un découragement profond. Et puis il se couche sous un genêt, là, dans le désert, et il dit, c'est assez, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Est-ce que Dieu l'a réveillé ? Il lui a dit, oh là, attends, je vais te faire un sermon, je vais te remettre les idées bien en place. C'est pas ça qu'il a fait, Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Déjà, il a commencé par lui mettre, l'ange de l'Éternel est venu, il a mis à son chevet une cruche d'eau, et puis du pain, et puis il a mangé, il a bu, il s'est rendormi, et puis il a recommencé. Il a recommencé. Parce que ce que Élie avait besoin en premier, c'était du repos. C'est la première chose qui lui était nécessaire dans sa situation et dans son cas. Après, Dieu lui a parlé aussi, mais il l'a fait au moment où il fallait que cela puisse se faire. Et donc, il a pourvu à sa fatigue. D'ailleurs, il est parlé aussi de défaillance, lorsque vous regardez. Fin du verset 29, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Une défaillance, c'est un relâchement brutal, incontrôlé. Ça peut être dans un travail, dans une veille, dans un effort, qu'on voudrait continuer d'ailleurs, mais la défaillance ne le permet pas. Et la défaillance peut être grave. Elle peut nous amener à la dernière extrémité, quand on a entrepris peut-être quelque chose de trop grand pour soi, ou qu'on n'a pas su peut-être s'entretenir, se calculer, se gérer pour poursuivre son effort. La différence entre la fatigue et la défaillance, c'est que la fatigue, on la sent venir. On la sent quand elle est là. Tandis que la défaillance peut nous prendre d'un coup, sans prévenir. Et il s'agit, pour les deux, de quelque chose qui nous atteint dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. En général, plus ou moins les trois ensemble, puisque les trois sont liés. Voilà. Et ainsi, vous avez une description déjà, des caractères du découragement et de l'abattement, à l'égard desquels Dieu veut agir, qu'il veut traiter de la meilleure façon. Alors qu'est-ce que Dieu va faire maintenant ? C'est notre deuxième grand point. La façon dont Dieu exhorte ceux qui sont découragés et sont abattus. Que va-t-il faire ? Première chose, il va leur rappeler ce qu'ils savent déjà. Il va leur rappeler ce qu'ils ont appris. Verset 28, « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ?» Déjà, peu de temps auparavant, cette fois-ci pour convaincre les idolâtres, ça c'est au verset 21, Dieu avait fait appel à ce qu'il savait. Regardez au verset 21, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi, etc. Voilà, donc, Jacob et Israël, c'était un peuple qui savait, au contraire de beaucoup d'autres peuples qui les entouraient. Eux savaient beaucoup de choses, et leur savoir, leur connaissance, venait de ce qu'on leur avait enseigné, venait de ce qu'ils avaient entendu. Ils avaient une connaissance. Ils avaient une connaissance de la volonté de Dieu, ils avaient une connaissance des promesses de Dieu, une connaissance aussi expérimentale, puisqu'ils avaient eu l'occasion de faire des expériences avec Dieu, d'expérimenter que la parole de Dieu était vraie, et cette connaissance, c'était un privilège pour eux. C'était un avantage merveilleux, Dieu le leur rappelle. Et combien cet avantage nous l'avons, nous, aujourd'hui, croyants, chrétiens, nous avons cet avantage encore plus qu'eux, parce que nous avons une parole qui est plus complète qu'eux. Nous avons la parole de Dieu complète de la Genèse à l'Apocalypse, qu'eux n'avaient pas encore tout cela, avec une partie. Et puis nous avons une possibilité, une capacité de prendre connaissance chacun de cette parole, de la lire et de la méditer à notre convenance. Nous avons un enseignement aussi qui est plus complet. Et puis nous avons des témoignages nombreux et variés dans notre propre entourage. Nous avons pu expérimenter que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, qu'elles se renouvellent chaque matin, et ça jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bon, proclamer cela. Et quand nous sommes découragés, il est bon de nous asseoir et de prendre un temps pour repasser en nous ce que nous savons, ce que nous avons appris, ce que nous avons réalisé, ce que nous avons expérimenté, et ça va être pour nous un très bon moyen de nous relever en bénissant Dieu. Amen. Et si j'avance encore maintenant, je vois qu'il leur proclame aussi son éternité. Lorsque regardez au verset 28, donc il dit, c'est le Dieu d'éternité, l'éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a toujours existé et qu'il existera toujours. Ça veut dire que Dieu ne change pas et qu'il n'y a rien dans le temps ou dans l'espace qui pourra lui faire changer sa façon d'être et ses façons de faire. Que donc s'il a agi avec bonté, avec fidélité envers ceux qui se sont confiés en lui dans le passé, s'il ne les a pas oubliés, s'il s'est occupé d'eux, que ce soit du temps de Noé, ou du temps d'Abraham, ou du temps de Job, eh bien, il est le même pour le faire maintenant. C'est ça que ça veut dire. Jésus-Christ est véritablement le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est donc la même, son amour insondable est toujours aussi pratique pour s'occuper des besoins des siens, sa miséricorde et sa bonté sont toujours aussi grandes envers les plus insignifiants et les plus bas tombés, et son éternité est donc pour nous un grand sujet d'encouragement et d'affermissement. Amen. Et puis une troisième chose qu'on peut voir aussi dans ce verset 27, c'est que Dieu montre qu'il sait tout ce qu'ils disent. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Donc voilà, nous l'avons vu, ils ont prononcé ces paroles de doute et de défaite, mais sont-ils au courant? Ont-ils réalisé que le Tout-Puissant les a entendus? Donc il leur donne la preuve en le répétant ce qu'ils ont dit. Et ça peut être pour eux à ce moment-là un sujet de confusion, un sujet de peur. Mais en même temps, s'ils veulent bien un tout petit peu réfléchir, ça peut être aussi un grand réconfort. Parce que si ça prouve qu'au contraire de leurs affirmations, Dieu les écoute. Dieu est attentif. Dieu prend soin d'eux. Et en plus, qu'il les écoute non pas pour les châtier, mais pour les secourir. Lorsque vous regardez dans la Genèse, rappelez-vous, Abraham accueillant dans sa tente les envoyés de l'Éternel en route vers Sodome, et l'Éternel lui-même ayant pris une forme humaine au milieu d'eux. Et voilà que, alors qu'ils sont accueillis sous la tente d'Abraham et qu'ils partagent ce repas qu'Abraham a préparé, fait préparer, voilà que l'Éternel s'adresse à Abraham et à Sarah et leur dit qu'ils vont avoir un enfant dans l'année. Et Abraham est vieux, on le sait, Sarah aussi, ça paraît une impossibilité humaine. Alors Sarah discrètement se retire à l'écart dans un lieu où elle est persuadée qu'elle est seule, et là elle rit à l'écart parce qu'elle ne veut pas paraître manquer de respect à celui qui a dit cela, ça lui paraît tellement énorme, Et puis je pense qu'il devait y avoir une part de découragement et une part d'amertume aussi dans son rire, parce qu'il y avait tellement longtemps qu'elle attendait la promesse de Dieu et celle-ci ne s'est pas accomplie. Et maintenant, à vue humaine, ben, il n'y avait plus d'espoir. Alors elle rit. Et puis quand elle a repris, je dirais, son apparence sérieuse coutumière, voilà, elle revient. Elle sait très bien qu'elle était seule. Hein. Mais pourquoi est-ce que cet invité demande, mais Sarah, pourquoi est-ce que tu as ri ? Alors elle a peur, elle a peur. Et puis elle sent le surnaturel dans l'air. Dans sa peur, elle dit, mais non, j'ai pas ri. Mais avec l'assurance tranquille de celui qui sait tout, le messager divin lui dit, au contraire, tu as ri. Au contraire, tu as ri. Et Sarah ne dit plus rien. Et là, je pense qu'elle a eu peur, hein, en réalisant comme jamais la présence de Dieu. Et en réalisant en même temps le fait que Dieu a vu et su exactement tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle concevait dans ce lieu secret. Mais je dirais qu'en même temps, la voilà rassurée. Pourquoi ? Ben parce que le Seigneur, en parlant de sourire, d'une part, ne l'a pas condamnée. On voit qu'il a compati à sa peine. Et puis ensuite, elle a maintenant la preuve que ses soupirs, que ses prières, que ses larmes de son cœur ont été entendues et que puisque la promesse a retenti, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement et qu'effectivement, Sarah va avoir bientôt un fils. Comme Dieu entend tout, comme Dieu voit tout, comme il prend soin des siens, comme il veut les aider parfaitement, béni soit son nom. Amen. Puis la quatrième exhortation qu'il leur adresse, c'est qu'il leur rappelle qu'il est le Créateur. Toujours dans ce verset 28, le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Donc, s'il a créé les extrémités, ça veut dire que son œuvre de création est complète. Ça veut dire aussi qu'il est capable de s'occuper des choses qui sont auprès, puisqu'il a pu s'occuper de celles qui sont au loin. S'il a créé les extrémités, ça veut dire aussi qu'il peut s'occuper de son peuple qui est près de lui, qui est cher à son cœur, puisqu'il a pris le temps, la peine et les efforts de s'occuper de justement de ce qui était aux extrémités. Hein. Et ça veut dire aussi qu'il est capable de s'occuper de tous les besoins. S'il a besoin de réparer, il peut réparer. S'il a besoin de guérir, eh bien il peut le faire. S'il a besoin de pourvoir, il peut le faire. S'il a besoin même de ressusciter, il le peut, parce qu'aucune de ces choses n'est aussi difficile, aucune n'est aussi grande que de créer comme Dieu l'a fait, c'est-à-dire de créer à partir de rien, créer à partir du néant. Et c'est pour ça que nous pouvons reprendre courage en nous appuyant sur un Dieu si grand et si merveilleux. Amen. Et si je poursuis encore, il leur rappelle encore qu'il est inépuisable. Il est marqué là, toujours dans le verset 28, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Pas de fatigue en lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il veille continuellement sur les siens. Hein ? Il ne prend de repos ni jour ni nuit, celui qui garde son peuple. Ça veut dire aussi qu'il est capable d'accomplir les œuvres les plus considérables sans se lasser. Nous pouvons faire confiance à Dieu, car tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Alléluia, alléluia. Et puis, s'il est inépuisable, ça veut dire qu'il est capable de persévérer à nous soutenir dans notre marche chrétienne. Si nous ne nous relâchons pas, soyons bien assurés que lui non plus ne le fera pas. Et en plus, il nous fortifiera le désir en nous pour que justement nous ne nous relâchions pas. Et c'est à cause de cela que nous pourrons voir s'accomplir ses promesses et avoir l'assurance de tenir bon. Amen. Et puis ça veut dire quoi encore ? Ça veut dire qu'il est capable de nous soutenir dans tout le travail dans lequel il nous appelle à être ouvriers avec lui. Hein, jusqu'à ce que cette œuvre soit achevée, jusqu'à ce que son plan soit parvenu à terme. Amen. Et puis, s'il est inépuisable, ça veut dire qu'il obtiendra finalement la totale victoire. Hein, il est dit que les îles finiront par espérer en sa loi, et le monde, l'univers entier, sera rempli de la connaissance de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Et pour toutes ces raisons, nous pouvons reprendre courage et tenir bon pour lui et pour sa cause. Amen. Une sixième chose encore, c'est qu'il leur rappelle sa sagesse, son intelligence parfaite. Hein, là aussi encore, à la fin du verset 28, on ne peut sonder son intelligence aux profondeurs de la sagesse, de la richesse et de la science de Dieu. C'est vrai, combien il s'agit là de quelque chose d'extraordinaire. Si nous apprenions à nous confier en Dieu, vous savez, il nous est dit que ses voies sont incompréhensibles, ses pensées sont tellement élevées au-dessus des nôtres, combien la sagesse de Dieu est plus sage que n'importe quelle autre, même sa folie est plus sage que la plus grande sagesse des hommes. Hein. Combien le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Combien la recherche du Seigneur et de sa volonté, voilà qui est l'intelligence. Hein. Et ainsi est-il important que nous puissions réaliser et saisir cela. On raconte l'histoire de ce petit garçon. Donc, voilà. L'histoire de ce petit garçon qui voulait une diligence pour Noël. Voilà, diligence pour, comme jouet pour Noël. Et en faisant les courses avec sa maman, il avait trouvé exactement la diligence qu'il voulait, qui mesurait à peu près 15 cm de long, voilà, et qui avait de belles roues, des chevaux brun foncé en plastique. « Maman, maman, je veux celle-là, s'il te plaît !» Voilà. Et puis comme il arrive parfois avec les jeunes enfants, voilà, qui pique une colère, en insistant pour avoir cette diligence-là à Noël. Alors la maman lui a dit, écoute, on verra. On verra. Et ils sont rentrés à la maison. Et le petit gamin était certain d'avoir ce qu'il avait demandé. Le matin de Noël arrive, tout confiant, il ouvre son cadeau. Et effectivement, c'était la diligence qu'il avait tant souhaité recevoir. Il était tellement content. Puis voilà son frère aîné qui lui a dit, tu as été stupide d'insister pour avoir cette diligence. Maman t'en avait acheté une bien plus grosse, mais quand tu l'as supplié pour celle-ci, elle l'a échangée. Alors, soudain, la petite diligence lui plaisait plus autant, voyez-vous. Hein ? Ben oui, c'est comme ça. Vous savez, parce que parfois on agit comme ça avec Dieu. Parfois on fait comme ça avec Dieu. On prie pour un besoin précis. Et on lui dit, Seigneur, il faut que tu agisses comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Voilà, puis on veut vraiment... Et on le supplie. Et Dieu peut des fois nous donner exactement, ce qu'on lui a demandé. Mais il avait peut-être quelque chose de mieux en tête, voyez-vous. Hein? Voilà. Et c'est pour ça qu'un homme de Dieu disait, en priant, demandez de grandes choses. Car en vous exaucant, Dieu souhaitera que vous ayez demandé des choses plus grandes encore. Et oui, c'est cela. C'est cela, frères et sœurs. Nous avons besoin, là aussi, de réaliser et de saisir cela. Et donc, rappelons-nous, parce qu'il tombe sous le sens qu'une telle sagesse ne saurait tolérer le moindre oubli de la part de son auteur. Hein, donc, ne saurait accepter la moindre erreur dans la direction des enfants de Dieu dans leur vie. Hein, et ne saurait oublier que c'est celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il est parfaitement sage et intelligent et nous serons parfaitement conduits et secourus. Amen. Et puis Dieu se proclame, et là c'est la septième chose, le septième point, le dernier point, se proclame comme celui qui pourvoit. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Il est le grand pourvoyeur. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent ne seront privés d'aucun bien. Amen. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu me conduis dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Lui qui a sacrifié son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Que de promesses excellentes. Hein. Et voilà, et s'il est question de fatigue et de défaillance auxquelles il est pourvu, eh bien, ça nous montre en fait que tous les besoins sont pourvus. Et voilà encore pourquoi le courage et la joie peuvent à nouveau nous remplir. Amen. Et voici, nous arrivons à notre troisième point, c'est l'action particulière de Dieu pour les fortifier. Là encore, on peut trouver sept points qui vont du verset 29 au verset 31 pour nous parler de l'œuvre bénie du Seigneur pour les secourir. Alors déjà, nous voyons que c'est celui qui donne la force. Verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué. Donc, il secourt donc bien celui qui est dans la faiblesse. Mais pas toute faiblesse, bien sûr, la faiblesse de ceux qui se confient en lui. Hein, c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle de ce point de vue-là, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 9. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma force, s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les outrages, dans les faiblesses, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et donne de la force à celui qui est fatigué en marchant dans ses voies, et il veut le faire aujourd'hui encore pleinement pour tous ceux qui en ont besoin. Amen. Deuxième chose, le même verset, il est marqué, il augmente la vigueur. Il augmente la vigueur. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on vient de voir. Parce que donner de la force, en une occasion particulière, dans une fatigue spéciale, c'est une chose bénie, que Dieu fait. Mais augmenter la vigueur, c'est quelque chose qui a des effets non seulement pour un moment, mais de façon suivie, de façon continue. Celui dont la vigueur est augmentée a plus de force de manière continue. Et là aussi, c'est ce que Dieu fait pour ses enfants. Il veut augmenter leur vigueur physique pour accomplir son œuvre. Il veut augmenter aussi la force de leur tempérament, de leur volonté, de leur conviction, de leur foi, pour qu'ils tiennent bon. Augmenter leur santé physique comme leur santé spirituelle. Et c'est là quelque chose que Dieu fait régulièrement, véritablement, durablement, pour ceux qui se confient en lui. On pourrait parler encore de l'exemple de Caleb, mais on pourra le développer un peu plus loin, Dieu voulant. Voilà. Ensuite, une troisième chose qu'il nous faut relever dans ce passage, c'est l'image des adolescents. Verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent. Vous avez une force dans les adolescents, vous savez, hein. Vous avez une montée de vie, là, vous avez une montée de sève, comme on pourrait dire, avec toute la souplesse, toute la croissance, toute l'espérance en même temps, et ils grandissent, ils se fortifient. On a l'impression des fois qu'ils vont plus s'arrêter de le faire. Hein. Voilà. Hein, donc, et eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas forcément tellement au courant de leurs propres limites. C'est pour ça que des fois, ils vont se lancer dans des choses qui sont excessives. Et puis leur corps, souvent, tolérera mieux qu'à d'autres périodes de leur existence ces choses-là. Et puis, malgré tout, ils vont finir par se fatiguer, ils vont finir par se lasser. Mais notre passage nous rappelle que, s'il était nécessaire, et quand c'est nécessaire, ceux qui se confient au Seigneur trouveront des capacités de renouvellement, de récupération, d'affermissement supérieures à celles-là même de ces adolescents dont il est question là. Amen. Et puis, ce n'est pas tout. C'est pas tout, parce que dans la suite du verset 30, il est marqué « Et les jeunes hommes chancellent ». Et le mot « jeune homme » qui est utilisé là, c'est autre chose que les adolescents dont il était parlé avant. C'est un mot particulier, en hébreu, et il s'agit de jeunes gens, en fait, qui sont choisis, qui sont sélectionnés pour une entreprise difficile en cas de guerre. Pour une expédition périlleuse, un peu des commandos, si vous voulez. Hein. Ils sont choisis pour leur vigueur, pour leur audace, pour leur contrôle d'eux-mêmes, pour leur activité, leur courage, leur sang-froid, leur vitalité. Et il s'agit, en tout cas de ce point de vue-là, de plus que ces adolescents de tout à l'heure. Les capacités sont supérieures. Il s'agit de sujets exceptionnels qui connaissent leurs limites et savent jusqu'où aller. Mais là encore, mais il est question de limites, puisque malgré tout, c'est vrai, il y en a. Il y a des limites quand même. Et dans l'œuvre du Seigneur, vous avez des expéditions qui sont aussi périlleuses. Hein. Et il faut là de véritables commandos du Seigneur, je dirais, pour remplir ces missions. La mission, c'est ce qui est écrit à l'entrée de cette salle, au-dessus de cette porte. Hein. Et c'est une mission qui coûte. C'est une mission qui coûte lorsqu'il faut gagner une âme et l'aider à s'attacher au Seigneur. Hein. C'est une mission qui coûte, celle que de ramener quelqu'un à Christ lorsqu'il s'était égaré loin de la vérité. C'est quelque chose qui coûte que de porter un témoignage fidèle et positif pour Dieu, qui soit lumineux, qui aille à l'encontre des paroles négatives, qui aille à l'encontre des paroles d'incrédulité, hein, qui prononce des paroles de foi, qui va à l'encontre des principes de ce monde de ténèbres. Hein. Mais le Seigneur est celui qui nous fortifie pour cela. Alléluia. Et il le fait de façon meilleure encore que ces jeunes hommes si bien choisis, si bien entraînés, si bien préparés, pourvu que nous laissions bien sûr conduire et former par lui. Amen. Et puis il est parlé de ce renouvellement, c'est notre cinquième point, là dans le verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Et voilà, on y arrive à ce fameux renouvellement de force. Et vous avez l'expression clé du passage qui se trouve là, On a parlé plusieurs fois déjà. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel. Hein. Quand il est écrit cela, se confient en l'Éternel, on peut traduire aussi d'après l'original, ceux qui s'attendent à l'Éternel. Ceux qui s'attendent à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, est-ce que ça veut dire qu'on va rester à attendre sans rien faire? Certainement pas. Nous voyons bien que, par exemple, le fermier, comment est-ce qu'il fait quand il s'attend à Dieu? Bien sûr, il va faire tout son travail, hein, de préparation du terrain, de labourage, de semail, etc. Il va faire pleinement sa part. Et ensuite, il s'attend à Dieu pour accomplir sa propre part. Et c'est ainsi que nous devons nous aussi nous attendre à Dieu en utilisant autant que nous le pouvons les moyens de grâce que Dieu a mis à notre disposition. Quels sont ces moyens? Eh bien, le premier, la lecture, la méditation, l'écoute de sa parole. Le deuxième, c'est la prière personnelle et la prière en commun avec les frères et sœurs. Le troisième, c'est notre participation assidue à l'Assemblée et à l'œuvre de Dieu, notre activité dans ces domaines-là. Et puis, notre quatrième de ces moyens de grâce, c'est le témoignage fidèle autour de nous, travaillant au salut, travaillant à l'affermissement des âmes dans le Seigneur. Et c'est ainsi que, nous confiant en lui de la bonne façon, eh bien, nous avons la pleine promesse de ce verset qui va s'accomplir entièrement pour nous. Amen. Vous pouvez remarquer encore une autre chose, avant de quitter ce point, pardon, c'est que cette expression « renouvelle leur force » signifie littéralement « change leur force ».« Change leur force ». Comme quelqu'un qui aurait un vieux vêtement usé, voyez-vous, et qui va le changer parce qu'on lui en donne un neuf, un nouveau vêtement. Et c'est vrai qu'il va, ça, la différence va se voir, et lui-même va aussi le ressentir. Hein, et ça nous parle, ça nous explique que le renouvellement que Dieu donne, eh bien, c'est pas un vain mot, mais c'est vraiment une glorieuse réalité. Dieu renouvelle les siens, béni soit son nom. Amen. Alléluia. Et puis vous avez l'image de l'aigle aussi, qui est là, dans ce verset 31. Ils prennent leur vol comme les aigles. Comment les aigles prennent-ils leur vol? Il est reconnu que l'aigle, c'est celui, parmi les oiseaux, les grands oiseaux, qui a le vol le plus vigoureux. Celui qui est capable de s'élever le plus rapidement dans les hauteurs. Et non seulement cela, mais celui qui est capable de s'élever le plus haut, puisqu'il peut atteindre une altitude dont les oiseaux, les autres oiseaux ne peuvent que rêver. Et ça, c'est important, parce que lorsqu'il y a une tempête, par exemple, vous savez, quand il y a une tempête, ça veut dire qu'il y a des cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est un nuage de plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Hein, et c'est pour ça qu'ils sont dangereux, parce que vous avez des courants ascendants ou descendants extrêmement violents. Et donc, la plupart des oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Quand une tempête arrive, hop, il faut chercher un refuge. Ils vont se cacher en dessous. L'aigle est le seul qui peut s'élever au-dessus. L'aigle est le seul qui peut s'élever au-dessus. Il a cette capacité d'élévation. Et ça, ça nous parle, bien sûr, c'est une image de force, de décision, de force et de piété, et aussi d'élévation au-dessus du monde, de communion, de proximité avec le trône de Dieu. L'aigle s'élève vers le soleil, et nous aussi, eh bien, nous voulons avoir à cœur de nous élever vers le soleil de justice. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu fortifie les siens pour les faire s'élever. Amen. Enfin, le dernier point de ce point de vue-là, en tout cas, cette image de progression et d'avancement. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils vont de l'avant. Pas forcément toujours en train de courir, mais ils continuent à avancer dans la foi. Avec le secours de Dieu, nous allons avancer dans la voie que le Seigneur a pour nous. Nous allons avancer et grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons avancer dans le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et puis nous allons vouloir marcher le progrès au progrès dans l'amour fraternel. Alléluia. Et l'amour de ceux que Dieu a mis avec nous. Et nous allons courir vers le but, nous allons courir vers la vocation céleste. Alléluia. Voilà, c'est important. Et souvenons-nous donc bien aussi de cette promesse. Saisissons-la, ne l'oublions pas, gravons-la dans notre cœur, attachons-nous avec ténacité à la réaliser et Dieu l'accomplira entièrement. Enfin, en conclusion, trois nécessités à rappeler. Trois nécessités à rappeler, trois choses absolument indispensables pour chacune et chacun d'entre nous. La première donc, c'est l'importance de la prière de la foi. l'importance de la prière de la foi pour bénéficier de cette force divine. C'est Dieu a des ressources inépuisables à notre disposition. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 3, ça nous est exprimé. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, alléluia, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, etc. Voilà, donc voilà, c'est une garantie. Et voilà, il faut le savoir, les ressources de Dieu sont inépuisables. Encore faut-il croire que ces promesses sont vraies. Donc on raconte que le chef indien de la tribu des Blackfoot, dans l'état d'Alberta, au Canada, a accordé la permission à la compagnie ferroviaire Canadian Pacific de traverser son territoire. Donc ils ont fait une ligne de chemin de fer et les trains ont circulé là, sur cette ligne. Et pour l'en remercier, la compagnie a offert à ce chef un laissez-passer permanent sur leur ligne. Et il s'empressa de le placer dans une pochette de cuir qu'il porta autour de son cou le reste de sa vie et apparemment il ne s'en servit jamais. Et beaucoup d'entre nous ressemblent à ce chef en ce qu'ils ne puisent pas ou si peu dans les ressources que Dieu met à notre disposition, voyez-vous. Donc, Paul ajoute, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alléluia. Éphésiens chapitre 5 et au chapitre 1, verset 3. C'est encore un historien qui raconte que la reine Élisabeth Ière recevait régulièrement un homme du nom de Sir Walter Raleigh qui venait lui demander des navires, des approvisionnements et des hommes pour se rendre aux Amériques. Et la souveraine ne lui refusait rien, et c'est ainsi que s'agrandissait l'Empire britannique à l'époque. Et un jour, elle s'écria, « Sir Walter, quand allez-vous cesser de me demander quelque chose ?» Et lui a répondu, « Quand votre majesté cessera de me donner. » Voilà, c'est vrai. Et en priant, nous nous approchons du roi, dont les ressources sont en vérité inépuisables, et qui est prêt à donner, quels que soient nos besoins, il est capable d'y répondre. Si vous êtes à bout de force, il peut vous redonner l'énergie et l'enthousiasme. Si vous vous sentez à court d'amour dans votre cœur, il peut le remplir de nouveau. Osez le lui demander. Amen. Ça, c'est la première chose, première recommandation. Ensuite, deuxième recommandation, deuxième rappel, c'est l'importance de la constance pour que Dieu puisse augmenter notre vigueur pendant la marche. Et là, j'en reviens à Josué et Caleb. On parle beaucoup de Josué, on parle moins de Caleb. Ça mérite d'être rappelé, Caleb. Il reste un peu dans l'ombre, parce qu'il a manifesté un grand courage, autant que Josué, qui, en faisant taire le peuple, qui reprochait à Moïse de les avoir conduits dans une impasse. Et puis, là, c'est écrit « Montons !» « Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !» Mais voyez bien que la panique avait aveuglé ce peuple qui voulait lapider Josué et Caleb, et vous savez comment ça a fini. Ils vont stagner 40 ans dans le désert pour ne pas avoir osé. Et durant ce temps, on peut imaginer que Caleb a pu à un certain moment ronger son frein, qu'il avait pu contenir son impatience, et surtout noter l'incroyable retard, la folle perte de temps, et même l'effacement de toute une génération. Devoir patienter 40 ans pour saisir une promesse qui était à portée de main, c'est quand même une tristesse, c'est quelque chose qui pourrait être rageant. Mais Dieu dit dans Nombre 14 au verset 24, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. » C'est comme ça qu'il a. C'est pour ça qu'à 85 ans, il avait autant de force qu'à 40. Et c'est pour ça qu'il a obtenu ce territoire qui était difficile, parce qu'il y avait des géants dans le territoire d'Hébron, il y avait plus qu'ailleurs même. Mais il avait vu, voyez-vous, bien sûr, il a vu les risques, il a vu les obstacles, il a vu les géants, il a vu tout ça. Mais il avait aussi vu autre chose qu'il n'avait pas oublié, voyez-vous. Il avait vu comment Dieu avait ouvert la mer pour faire sortir le pays d'Israël, de l'Égypte. Il avait vu comment Dieu avait châtié les dieux des Égyptiens. Il a vu comment Dieu avait fendu le rocher pour donner de l'eau à boire. Il a vu comment Dieu avait nourri son peuple dans les airs. Il n'a pas oublié tout ça quand il s'est retrouvé dans la difficulté. C'est pour ça que je vous parle de l'importance de la constance. C'est quelque chose de constant. Grâce à sa constance, soyons pas impatients parce que Dieu tient sa parole. Alléluia. Et puis la troisième, je dirais la troisième, troisième recommandation, c'est la nécessité, l'importance d'apprendre, de réapprendre à puiser notre force dans le Seigneur. Ses ressources sont inépuisables, puisons notre force en lui. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le culturisme. Le culturisme, voilà, c'est des culturistes de compétition, ce sont des gens, ils exposent leurs muscles, etc. Et puis ils sont très, donc ça existe, hein, le culturisme de compétition. Et ils s'imposent là aussi un cycle d'entraînement extrêmement rigoureux. Et voilà, au cours des premiers mois, ils vont chercher à accroître la taille de leurs muscles, leur force. Et à l'approche de la compétition, ils vont plutôt viser à perdre toute graisse qui dissimule leurs muscles. Et dans les jours qui précèdent la compétition, ils boivent moins d'eau que la normale afin que leur masse musculaire soit facilement visible. Hein. Et en raison de la diminution de leur consommation d'eau et de nourriture, les participants sont en fait le plus faible le jour de la compétition, bien qu'ils semblent forts. Hein. Et par exemple, dans 2 Chroniques, chapitre 20, on découvre la réalité contraire. Le fonctionnement avec Dieu, c'est la réalité contraire. C'est reconnaître sa faiblesse afin de puiser dans la force de Dieu. Je me rappelle qu'à ce moment-là, les éclaireurs sont venus, ils ont annoncé à Josaphat, il y a une multitude nombreuse qui s'avance contre toi. Hein, c'est en 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 2. Et en réponse, il est marqué que le roi publia un jeûne dans tout Juda pour prier, pour lutter. Ils ont sollicité l'aide de Dieu. Et puis ensuite, lorsqu'il a eu fini de rassembler son armée, Josaphat a placé les chantres qui devaient célébrer et louer l'Éternel. Il les a placés à la tête de l'armée. C'est ce qu'on voit au verset 21. Et lorsqu'ils se sont mis à chanter, lorsqu'ils sont mis à louer et à adorer Dieu, il est marqué que Dieu plaça une embuscade contre ceux qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus, marqué au verset 22. Nous voyons que cette décision de Josaphat a montré sa foi, hein, sa foi au Seigneur. Il a choisi à dessein de compter sur Dieu plutôt que sur la puissance militaire, plutôt sur la puissance humaine. Et au lieu de chercher à faire du culturisme spirituel pour surmonter son épreuve, il a puisé sa force en Dieu. Et c'est ça aussi que nous avons besoin, frères et sœurs. Hein. Alors rappelons-nous ces trois choses, trois dernières recommandations, l'importance de la prière de la foi, pour bénéficier de cette force divine, l'importance de la constance, pour que Dieu puisse augmenter notre vigueur pendant la marche, et l'importance de puiser notre force dans le Seigneur, dont les ressources sont inépuisables. Béni soit son nom. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te bénissons encore pour ces moments. Te remercions pour ta parole, qui est pour nous un puissant soutien, un inégalable encouragement, Seigneur. Et merci, parce que ce jour encore, eh bien, tu es celui qui veut accomplir ton œuvre. Tu es toujours le même. Béni soit ton nom. Tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Tes ressources sont illimitées, Seigneur. Et ta volonté est de véritablement agir pour les tiens, de les soutenir, de les secourir, de les encourager et de les fortifier. Merci pour cette grâce par laquelle tu agis encore aujourd'hui pour tous ceux qui se confient en toi et qui se saisissent de ta précieuse parole. Sois glorifié. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons quelques annonces déjà. Nous pouvons remercier, nous remercions tous ceux qui ont participé à la mission, tous ceux qui l'ont soutenu de diverses façons par la prière. Je crois pouvoir dire sans exagérer que nous avons une très bonne mission et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Je rappelle aussi que les questions et réponses sur la Bible, c'est mercredi à 19h15. À la suite, réunion de prière, donc à 20h15 de mercredi. Et puis alors, voilà, nous allons avoir la reprise de la réunion d'évangélisation du vendredi à 20h15. Avec un processus qui est mis au point, on a réfléchi à la question pour la question de l'imposition des mains. Donc, ressembler le plus possible à l'imposition des mains tout en préservant les mesures qu'on est obligé d'avoir. Donc, ça veut dire que pour faire la queue à l'imposition des mains, vous voyez, il y a un marquage qui a été fait là par terre. Il y a un trait tous les mètres, là, le long, et puis ça aboutit à une croix qui se trouve juste ici devant l'estrade. Donc ça veut dire que pendant ces moments-là, déjà moi, je remettrai mon masque. Hein. Et puis chacun aura la possibilité, en arrivant, de se procurer, il y en aura sur les petites tables de chaque côté, une requête de prière. Vous voyez, ces requêtes de prière, vous avez dessus, en haut, vous avez deux versets pour vous encourager. Le premier, c'est « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris », c'est dans Jacques chapitre 5. Et encore, le Seigneur qui dit dans Matthieu 18, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, ça c'est les versets d'introduction. Et ensuite, vous avez une colonne ici devant, c'est marqué « Sujet de prière » en haut. Et puis en dessous, vous avez, ça peut être soit une guérison, soit une personne pour laquelle prier, soit une délivrance ou un autre sujet particulier. Donc à ce moment-là, si vous venez, ben, vous avez pris votre petite feuille et vous mettez une croix, voyez, à côté de ce qui est... Et si vous voulez mettre un ou deux détails supplémentaires, vous avez encore une case derrière pour le faire. Ne faites pas une trop grande tartine parce que après, quand vous arrivez, vous me donnez la feuille, comme ça je l'ai, et on peut prier directement pour la personne qui se sera mise ici. Et puis comme ça, elle pourra repartir. Comme ça, on aura, je pense, respecté au mieux les mesures barrières telles qu'il faut encore les mettre en œuvre, telles qu'il faut encore les maintenir. Et puis, ça nous permettra aussi, ce vendredi soir, de remettre en route les témoignages comme on le faisait hein, aussi pendant les réunions du vendredi. Voilà, donc cette semaine aussi, c'est la reprise de l'évangélisation dans les villages, samedi à 14h30. Et puis nous envisageons aussi une reprise de l'école du mercredi, pas cette semaine encore, hein. Donc aux environs de la mi-septembre, et ce serait spécialement pour les enfants, les jeunes, de l'âge collège, dans un premier temps, ceux de l'âge collège. Hein. Et on verra s'il y a possibilité d'aller plus loin ensuite, au fur et à mesure de l'évolution des situations. Hein. Donc, réservez votre mercredi après-midi et ou celui de vos enfants, pour cela, s'ils sont spécialement dans la tranche d'âge qui est concernée là. Hein. Donc, prions pour que tout ça puisse aussi bien s'organiser, bien se préparer. Donc, on devrait commencer ça aux environs de la mi-septembre. Hein. Voilà, donc... mettez ça en prière et puis je pense aussi en priorité pour les enfants parce qu'il faut garder les priorités pour eux aussi, pour leur avenir spirituel. Voilà. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous soutienne et vous fortifie.